Il est 6h30 à Bamako et en temps universel. Bon réveil à vous, bon début de journée à l'écoute d'RFI, 8h30 à Paris.
RFI Matin.
Bonjour Fabien Albert.
Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à
tous.
À
la une de l'actualité africaine ce matin, ce raid particulièrement sanglant lors d'un mariage au Mali.
Au moins 21 personnes ont été tuées dans le centre du pays. L'attaque est attribuée au JNIM, groupe affilié à Al-Qaïda. L'armée malienne présente dans la zone n'a pas réagi à cette information. La Côte d'Ivoire, 10 jours après l'incident survenu dans la mine d'or d'Iti, le gouvernement l'assure, la société minière a maîtrisé la source de pollution. De quoi rassurer les habitants, même si certains doutent encore, vous l'entendrez. Secteur minier au cœur des ambitions du nouveau président Bassirou Diomaye Faye au Sénégal, Dakar réaffirme son ambition d'être souverain économiquement sur les richesses de son sous-sol. Et puis, en Afrique du Sud, le gouvernement d'Union Nationale a prêté serment alors que l'entraîneur des Mamelodi Sundowns, Roulani Mokwena, lui, a pris la porte.
Au Mali, au moins 21 civils ont été tués dans le centre du pays.
Des villageois assassinés à Djigibombo, dans la région de Bandiagara. L'attaque a eu lieu lundi, en fin d'après-midi. Elle est attribuée à la Katiba Massina du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda. Les précisions de David Baché.
Lorsque les djihadistes ont attaqué Djigibombo vers 17h, une cérémonie de mariage était en cours. Selon les habitants, élus locaux et représentants communautaires joints par RFI, 21 corps ont été retrouvés, criblés de balles ou égorgés. Certains villageois sont toujours portés disparus. Des habitations, des greniers et le centre de santé du village ont été incendiés, du bétail emporté. Les sources jointes par RFI attribuent l'attaque à la Katiba Massina du JNIM, très active dans la zone. Ce même lundi, une autre attaque a également eu lieu dans le village de Sokorokanda, à quelques kilomètres. 2 personnes y ont été tuées. Ces derniers mois, les passagers de plusieurs bus circulant sur la RN15 toute proche ont été enlevés. En mai dernier, 19 habitants de Dialassagou, une autre commune du même secteur, avaient été tués. Il y a 2 ans, une attaque du JNIM y avait fait plus de 130 morts. L'association locale Gina Dogon invite les autorités à reconsidérer le plan de gestion sécuritaire du centre qui a montré ses limites et déplore que la population de la région de Bandiagara ait le sentiment d'être abandonnée à son triste sort.
David Baché, l'armée malienne et ses supplétifs de Wagner sont présents à Bandiagara à moins de 20 km donc de Djigibombo. Sollicité par RFI sur les éventuelles actions en cours, l'armée n'a pas donné suite.
En Côte d'Ivoire, le ministère de l'Environnement l'assure, l'eau à proximité de la mine d'or d'Iti est dépolluée.
Plus de 10 jours après l'incident survenu dans cette mine située dans l'Ouest, le ministère de l'Environnement affirme dans un communiqué que la source de pollution a été maîtrisée par la société minière. L'incident a occasionné 185 cas d'intoxication légère. Par ailleurs, une mise en demeure de cessation de pollution a été servie à la société canadienne Andéavour qui exploite le site et une assistance a été apportée aux populations riveraines qui restent méfiantes, Binta Diagne.
Le village d'Ouyatouo est situé à 400 mètres de la mine d'or d'Iti. Le canal d'évacuation des eaux de pluie dans lequel des déchets miniers se sont écoulés longe cette localité. Dès qu'il a été informé de cet incident, le chef de canton, Célestin Bala, a rapidement sensibilisé les habitants.
J'ai appelé le griot pour alerter tout le village de ne pas boire de l'eau de marigot et de l'eau de pluie. Le lendemain, nous avons constaté les diarrhées, les vomissements. J'ai appelé la mine. Ils ont mis un plateau technique en marche.
Par mesure de prévention, la pêche a été suspendue, l'eau courante a été coupée. Les habitants se sont rabattus sur la pompe hydraulique du village. Mardi, 2 citernes ont été envoyées pour approvisionner la localité. Mais les habitants restent partagés à l'image de Christophe Couimincent, le président des jeunes.
On s'inquiète beaucoup, ceux qui sont malades, ceux qui font la diarrhée.
Il faut dire qu'au moins c'est l'arrivée des 2 citernes au village, ça nous soulage un peu, mais pas la totalité, parce que le village est tellement grand. Nous avons 7 quartiers ici, on peut nous aider à faire 7 fourrages au village, pourquoi pas un mini château.
La société Endeavor estime que l'incident a été circonscrit, selon ses mots, des mesures de nettoyage ayant été menées dans le périmètre du canal de dérivation, lit-on dans un communiqué. Mais les riverains de cette mine d'or attendent la publication des résultats des prélèvements effectués par le centre ivoirien anti-pollution pour être totalement soulagés. Binta Diagne, Abidjan, RFI. RFI.
RFI à Abidjan et Dakar, 6h35, l'heure d'ouvrir une large page Sénégal dans ce journal.
D'abord avec l'ambition réaffirmée par le nouveau gouvernement sur la souveraineté économique du pays, en premier lieu sur le secteur minier. Les sous-sols du Sénégal regorgent d'une grande variété de minerais, d'or, de phosphate ou encore de fer. Le nouveau président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement souhaitent renégocier certains contrats. Lors d'une prise de parole au sommet Mining on Top Africa qui se tient jusqu'à ce jeudi soir à Paris, le ministre des Mines et du Pétrole, Biram Souley Diop, a pointé du doigt l'assujettissement des États africains aux pays qui exploitent leurs ressources. Alexis Bédu.
Un discours de rupture face notamment à des industriels français. Dans la course mondiale aux minerais, le Sénégal vendra au plus offrant, dit en substance Biram Souley Diop.
Je ne voudrais pas aussi me limiter à l'Europe. Il faut aller tirer les bénéfices partout dans le monde et ne pas avoir des œillères pour dire Europe. C'est vrai, je suis venu à Paris, mais si mon intérêt en Arabie Saoudite, j'irai méchamment le chercher là-bas.
Les pays africains producteurs de minerais doivent accélérer ensemble pour transformer sur place, dit le ministre. C'est une question de souveraineté.
Tant qu'on ne prend pas la décision de transformer, on ne fait pas de transfert de compétences. Est-ce que vous savez que la France connaît mieux le cadastre minier du Sénégal que le Sénégal? Pourtant, ils ont les données encore. Et ils ne l'ont pas partagé avec moi. C'est quelle générosité ça? La transformation, ça suppose aussi savoir qu'est-ce qu'il y a dans son territoire minier.
Le rééquilibrage via la renégociation de certains accords miniers est réaffirmé. Ce n'est pas sans risque, mais c'est loin d'être impossible pour Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales.
À partir du moment où c'est l'État qui est souverain sur un certain nombre de ressources naturelles et c'est lui qui peut aussi causer des problèmes aux entreprises exploitantes, en général, les entreprises, après avoir dit non, on ne va pas renégocier, viennent à la table des négociations et on renégocie.
Et face à la crainte des industriels, le ministre des Mines du Sénégal insiste sur un point, la stabilité politique de son pays.
Alexis Bédu, le nouveau gouvernement au Sénégal qui a annoncé pendant la campagne électorale vouloir sortir du franc CFA.
Une monnaie qui, par son simple nom, évoque le passé colonial. C'est l'objet du dossier de ce journal. Comment comprendre le franc CFA? Comment réfléchir à la suite, à une sortie de cette monnaie? Pour la réalisatrice, journaliste et productrice sénégalaise Cathy Lenandiaï, cela passe par le cinéma. Elle réalise le documentaire « L'argent, la liberté, une histoire du franc CFA ». Documentaire qui cherche à comprendre l'histoire et les rouages de cette monnaie, encore utilisée donc dans 14 pays d'Afrique de l'Ouest. Présentation de ce film avec Juliette Dubois.
Le film commence par les albums de famille de la réalisatrice et ses souvenirs d'une grand-mère lui donnant une pièce de 50 francs CFA. Cathy Lenandiaï a toujours connu cette monnaie, mais elle a décidé de se plonger dans son histoire il y a 10 ans. Elle interviewe alors un économiste.
C'est en 2014, Thierry Amougou qui a lâché comme ça au détour d'une réponse. Le franc CFA, c'est vraiment une question sur laquelle il faudra bien un jour qu'on s'arrête. C'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis posé la question, tiens, le franc CFA, je n'en ai jamais entendu parler.
Pendant 7 ans, elle se plonge dans l'écriture et la collecte d'images et de témoignages.
Il y a eu d'abord l'exploration des livres, de tout ce qui a été publié. Et puis ensuite, ça a été l'exploration des archives. Et c'est vraiment à travers les archives que j'ai trouvé la manière. Et pour moi, bon, c'était la fable et le conte.
Ses intervenants sont des économistes comme Dongo Samba Sylla, des hommes politiques comme Lionel Zinsou ou des écrivains comme Félouine Sarr. Le film est riche en informations, mais Cathy Lenandiaï fait un effort de pédagogie pour interroger les rapports entre la France et ses anciennes colonies.
Une thèse sur le franc CFA, c'est je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire parce que c'est la grande histoire et toutes nos histoires individuelles.
L'idée de tisser ces histoires, de la colonisation à la dévaluation de 1994, est illustrée poétiquement pendant le film par des images de tisserands, toujours accompagnées de la voix de la réalisatrice.
Pour la génération de mes parents, les luttes d'indépendance avaient mobilisé l'espoir de reprendre le contrôle.
Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Et le documentaire qui dure plus d'une heure et demie provoque débats et réflexions chez les spectateurs. Quel lien lie encore la France à ses anciennes colonies? Par quoi remplacer le franc CFA? Juliette Dubois a donc tendu le micro, à la sortie d'une séance à Dakar.
Il y a des choses qu'on connaît, l'arrimage à l'euro ou au franc avant. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement d'avoir des explications d'économistes aussi qui sont beaucoup plus dans le fond et d'avoir tout ça réuni dans un récit très informé mais en même temps très poétique aussi. Et c'est ça que je trouve génial de ce film. Ouais.
Le film là, ça nous a rêvé parce qu'il y a des choses que nous, Africains, on ne savait pas.
Quand on n'a pas une souveraineté monétaire, on ne peut pas être indépendant. On comprend totalement ça.
Je pensais que c'était un film intéressant, que ça permettait aussi de sensibiliser la jeunesse.
Il y a des choses que vous ne saviez pas, que vous avez apprises ?
Ouais, bien sûr, plein de choses. Histoire avec la dévaluation de 50% qu'il y a eu, ça je ne savais pas. Ça donne à réfléchir et peut-être à trouver d'autres idées pour remplacer le fait de CFA.
Je pense qu'effectivement, le débat est posé. Est-ce que les populations ont suffisamment confiance en leur propre économie, en leur propre force ? Bon, tout le monde dénonce.
L'argent, la liberté, une histoire du franc CFA, film documentaire qui a reçu la mention spéciale du jury documentaire long métrage au FESPACO 2023. Il passe encore à Dakar jusqu'à ce samedi. Il sera ensuite diffusé dans des lycées et d'autres espaces à partir du mois d'octobre.
En Afrique du Sud, le gouvernement d'Union nationale a prêté serment hier au Cap.
Exécutif sud-africain composé de 75 ministres et ministres délégués. Une administration pléthorique pour pouvoir contenter les 9 partis qui participe à ce gouvernement de coalition. Le Congrès national africain garde la main sur un ministère d'importance, celui des relations internationales. Il sera dirigé par le jeune et déjà célèbre Ronald Lamola, son portrait par Romain Chanson.
Le visage de Ronald Lamola a fait le tour du monde quand il s'est rendu à la Cour internationale de justice pour porter les accusations de génocide à Gaza contre Israël. Il était ministre de la justice et il accompagnait la ministre des Affaires étrangères qu'il remplace aujourd'hui. Ronald Lamola devrait suivre ses pas. Cet homme de 40 ans est un pur produit de l'ANC. Il était vice-président de la branche jeunesse du parti. Il siégeait donc au sous-comité aux affaires étrangères, un domaine qu'il connaît bien. Il devrait défendre la ligne du parti. Soutien à la cause palestinienne, au peuple sahraoui, amitié avec Cuba, Pékin et Moscou, tout en entretenant de bonnes relations avec les États-Unis ou l'Ukraine. Son homologue ukrainien, Dmytro Kuleba, a d'ailleurs salué sa nomination sur Twitter. On sait que l'Ukraine cherche des soutiens sur le continent et que l'Afrique du Sud avait tendance à pencher du côté russe au début de la guerre. Mais l'Afrique du Sud défend sa position de non-aligné et se plaît à parler à tout le monde. Un dialogue qui sera nécessaire pour l'organisation du G20 en Afrique du Sud à la fin de l'année 2025. Romain Chanson, Johannesburg, RFI.
Un dernier mot de football pour terminer. Nathalie, toujours en Afrique du Sud. Roulani Mokwena n'est plus l'entraîneur des Mamelodi Sundowns. Après 4 ans passés sur le banc des Brésiliens de l'Afrique, le technicien de 37 ans quitte le club qui l'a fait grandir et où il s'est construit une belle réputation. Un départ pas vraiment voulu, Babacar Diarra.
Je ne voulais pas partir, on m'a forcé la main. Les traits tirés, la voix cassée, Roulani Mokwena n'a pas souhaité approfondir dans son seul entretien sur une radio sud-africaine après son départ du poste d'entraîneur des Mamelodi Sundowns. Un déchirement pour celui qui a tout connu chez les Masandawana. Mokwena a coaché dans les catégories de jeunes, assisté le légendaire Pitso Mosimane à la tête de l'équipe Fagnon avant de la prendre en main. D'abord en binôme dès 2020, puis seul 2 ans plus tard. Dans ce club boulimique de titres, le technicien a pu imposer son style et perpétuer l'exigence de trophées. 4 titres de champion, 3 de meilleurs coachs sud-africains et un sacre dans l'édition inaugurale de l'African Football League. Le seul sur le plan continental, car son Mamelodi n'aura jamais remporté la Ligue des Champions. Un argument pour le licencier, pas si sûr si l'on en croit la presse sud-africaine qui évoque plutôt des divergences de vues sur le mercato avec le directeur sportif Fleming Berg. Désormais libre, Mokwena ne devrait pas manquer d'offres. Son charisme dépasse les frontières de l'Afrique du Sud. Des clubs et sélections pourraient s'intéresser à lui. Un effet domino n'est pas à exclure non plus avec les cadres du Mamelodi comme le milieu Thébo Mokwena ou l'attaquant namibien Peter Chaloulilé.
Babacar Diarra pour refermer ce journal. La suite des RFI Matin, c'est tout de suite avec vous Nathalie Amar.
Merci Fabien Albert et à tout à l'heure 9h30 pour une nouvelle édition. Les sports, ce sera une édition complète à 9h42 avec Victor Missistrano.